Alors, je vais modifier un tout petit peu le titre de mon intervention, qui sera « Roger Vaillant, un homme heureux ». En mai 1965, Roger Vaillant est à l'agonie. Dans un sursaut de lucidité arraché à la souffrance et à la morphine, il dit à son épouse Elisabeth « Mon amour, quel bonheur, comme je suis heureux ». Telles furent les dernières paroles d'un homme qui avait fait du bonheur un des fils conducteurs de son existence, une raison de vivre, d'aimer, d'écrire et de se battre. Son corps était expressif. Elisabeth l'a décrit tel qu'il était lors de leur première rencontre. Très très maigre, une crinière de beaux cheveux châtains ondulés, tel m'a paru Roger. Des petits yeux à la française, marrons, très vifs, intelligents. Pas grand mais aigu, qui regardait tout. Un grand nez aquilin, sa bouche sensuelle était tellement belle, et son sourire. Mais il souriait rarement. Il avait 42 ans. Chez lui, il n'y avait de jeunes que les mains, squelettiques mais superbes, petites mais élégantes. Son visage était réellement particulier, ravagé. Était-ce l'opium qui l'avait marqué? Sans doute. Mais il y avait eu également la résistance, le manque de soleil, cet éternel manque de sommeil. Roger a toujours aimé les ballets nocturnes. Qui était cet homme, cet auteur au goût si prononcé pour le bonheur? Roger Vaillant découpait lui-même sa vie en saisons. La première va de sa naissance, le 16 octobre 1907, au début des années 1930. Il passe son enfance et son adolescence au sein d'une famille de la moyenne bourgeoisie, qu'il dira plus tard avoir détesté. En 1919, il s'installe à Reims, ville en pleine reconstruction. Vaillant prend goût aux mathématiques et à la géométrie, qui, il y reviendra souvent, lui font perdre une foi qui était vive. Il ne subit pas de crise religieuse. Déjà, il raisonne. Plus tard, il fera dire au personnage principal d'un jeune homme seul, un beau jour, il me sembla aussi absurde de croire en Dieu que de prétendre que les trois angles d'un triangle ne sont pas égaux à deux droits. Au lycée, il se lie d'amitié avec René Dommal et Roger Gilbert Lecomte. Ils forment un groupe nommé les Frères Simplistes. Ils écrivent frères PH et pas F. Se passionnent pour la littérature, particulièrement Rimbaud, se révoltent contre la société, rêvent d'une vie hors normes, loin de l'ennui bourgeois, expérimentent les drogues et l'alcool et commencent à écrire. Les jeunes gens ne savaient pas qu'à Paris, le surréalisme existait. Vaillant publie les poèmes dans la petite revue de son professeur René Maublanc, qui eut une forte influence sur l'adolescent puisque, non content de le pousser vers la littérature, il l'initiera aussi au marxisme. En 1925, Vaillant s'inscrit en Hippocagne à Paris, dans le but de préparer une licence de lettres à la Sorbonne. De provincial gauche et timide, il se transformera en dandy. Son condisciple Robert Brasillach le décrira ainsi. Je me rappelle un garçon au visage osseux, aux cheveux longs, volontiers porteur d'une pèlerine qui lui donnait un air byronien. C'était Roger Vaillant, à coup sûr un des personnages les plus extraordinaires de notre classe. Il nous apportait le manifeste du surréalisme, Poisson soluble, et les poèmes de Paul Éluard. Il nous chantait les mérites de l'acte gratuit, qu'il nommait acte pur, et l'écriture automatique. Il était le Lafcadio de Gide incarné pour nous, et bien qu'il soit rare d'admirer quelqu'un de son âge, il est exact que nous l'admirions. Les études ne dureront pas longtemps. La vie parisienne est tout de même plus intéressante que les bains confortables de l'université. La rencontre avec Robert Desnoves est décisive. Le poète, qui mourra dans les camps et auquel Vaillant rendra un émouvant hommage à la libération, le présente au patron de presse Pierre Lazareff, qui l'engage comme journaliste en 1928 à Paris Soir. Desnoves va même jusqu'à corriger de ses mains son premier article. 1928 est une année doublement décisive. Vaillant, Dommal et Gilbert Lecomte fondent la revue Le Grand Jeu, financée et publiée par un éditeur surréaliste. Breton et Aragon d'abord se méfient. Comme l'écrit Jean Récatani dans la présentation des écrits intimes, Des rapports s'étaient établis avec les surréalistes qui avaient soumis les jeunes gens à un véritable examen de passage avant de les estimer dignes de figurer à leur côté. Dans le premier numéro, Vaillant publie deux articles, « La bestialité de Monterlan » et « Colonisation ». Dans la livraison suivante, « Arthur Rimbaud, guerre à l'homme ». La conscience politique est encore on ne peut plus faible. S'il dénonce le colonialisme, c'est surtout par révolte contre l'ordre bourgeois de son temps. Le texte consacré au roman « Les bestiaires » est d'ailleurs suivi de cette note. J'apprends qu'à Limoges, il y a plusieurs années, un capitaine d'infanterie surprit un soldat en train de faire l'amour avec une truie. Il ne voulut pas fermer les yeux. Le soldat passa en conseil de guerre et fut condamné à 50 bagnes. Voilà une condamnation qui nous est encore plus odieuse que celle de Sacco et Vanzetti ou de Landru. Mais des tensions vont bientôt déchirer le petit groupe. De Mal sombre dans le mysticisme et Gilbert Lecomte ne maîtrise plus sa consommation d'alcool, de drogue, les deux. Amer, Vaillant s'éloigne et est gagné par la mélancolie. Il continue d'écrire dans la presse et signe, lui qui avait souvent recours à des pseudonymes, un petit article de commande sur le préfet de Paris Chiap. Souhaitons que les Parisiens soient également ravis d'entendre dans leur square public l'hymne intitulé « Chiap Martia » à la gloire de l'épurateur de la capitale. Éloge est un peu trop gros pour être honnête, mais Breton et Aragon ne le voient pas de cet œil. Le groupe du grand jeu est convoqué dans ce qu'il faut bien appeler un tribunal. La charge est violente. Vaillant est exclu sans être soutenu par ses amis. Il se retire et la revue disparaît. Vaillant est brisé. Celui qui se faisait appeler François chez les frères Simplistes écrit en 1934 à Jean Beaufret « L'ancien monde achève de se désagréger. Le comte est fou et passe ses rares moments de lucidité à essayer de prouver qu'il est encore intelligent. Domal joue au mal qui protège son épouse, entre une vieille femme et un vieillard qui se croit prophète. On ne parle plus des surréalistes, les gens de gauche deviennent fascistes, je ne me drogue plus depuis 4 mois et je ne donne plus de leçons de morale à des petites filles. François est mort et je laisse se former celui qui va lui succéder. » Ainsi se clôt douloureusement la saison dite surréaliste. Plus tard, Vaillant comprendra qu'elle ne pouvait être qu'un moment, sinon une impasse. Les surréalistes avaient le sens de la dérision. L'histoire en fera un sens du dérisoire. Le temps a montré que, s'il importait que cela ait eu lieu, il n'était plus possible de jouer à écrire « Nous défendons Sacco et Vanzetti, mais nous préférons Landru ». En 1947, Vaillant publie aux éditions sociales « Le surréalisme contre la Révolution », un pamphlet contre André Breton qui, de retour de son exil new-yorkais, pavanait en une du Figaro. Il écrit « Aussi bien le dérisoire disparaît avec la marge. Pour un combattant de fait, l'ennemi n'est jamais dérisoire. Le dilettantisme de l'action ne résiste pas longtemps à la boue des champs de bataille, ni, pour les clandestins, à la peur des tortures ou tout simplement aux attentes dans les gares et les chambres d'hôtel pas chauffées. On peut jouer sa vie à pile ou face par humour, mais se demander jour et nuit, pendant des années, si la voiture qui freine devant la porte n'amène pas les tortionnaires, hésiter en sachant les camarades pris les uns après les autres, implique qu'on attache du prix à sa cause. Ainsi, de 39 à 44, à mesure que la marche se dérobait, la plupart des anciens surréalistes découvraient, en y prenant place, un monde dur, significatif et exaltant, exigeant et méritant que les hommes de cœur prissent part à ces luttes. Qui va succéder à François? Un journaliste et un grand reporter. Vaillant écrit sur tous les domaines. Il rédige des chroniques mondaines, des scènes de vie des clochards ou de la vie nocturne de Montparnasse, des portraits de femmes comme celui de Kiki, l'égérie des peintres et de Man Ray, des critiques de cinéma, Chaplin, Eisenstein, Buster Keaton ou Buñuel. Les titres de ces articles sont savoureux et constituent à eux seuls des récits en une ligne. Prenons comme exemple. Une hôtelière de Montparnasse nous dit quelles sont ses clientes préférées. Les peintres de Montparnasse veulent acheter le palais royal. Édith, la plus belle et la plus aimée. Étrange et tumultueuse soirée d'une grande dame vénitienne de Paris. Les parisiennes aux jambes nues sont de plus en plus nombreuses. Il rend également compte de l'affaire Stavisky et des autres scandales qui ont agité ces années 1930. Vaillant forge son style. Comme l'écrit Marie-Noël Riault, le journalisme devient son métier. Mais c'est avec la même désinvolture qu'il traite de l'actualité politique. Le krach de Wall Street, la montée du nazisme, la guerre entre le Japon et la Chine semblent le laisser indifférent. Pourquoi écrit-il ? Pour vivre. Il rêve toujours de littérature. Quand il est nommé directeur de la politique étrangère de Paris Soir, il fait ce commentaire. « Je suis dès à présent accrédité au Quai d'Orsay et je règle les destins du monde sous le nom d'Étienne Merpin. » Sur la crise économique, il termine son article consacré à la communauté américaine de Paris par ces lignes. On dut consommer un peu plus de cocktails à Montparnasse pendant l'énervement. Et puis on en consommera un peu moins. Et tout recommencera. Sous le titre « À Francfort pendant que les nazis montent la garde », Vaillant décrit en 1933 les attaques contre les magasins tenus par des juifs. J'ai eu l'impression d'une grande manifestation totale. La foule, les spectateurs étaient très paisibles. Les Hitlériens jouaient leur rôle très sérieusement. La mise en scène avait été minutieusement réglée. De grandes autos, pavoisées du drapeau rouge à la croix gammée, passaient lentement avec des pancartes sur lesquelles on lisait « N'achetez pas dans les magasins juifs ». Roger Vaillant a également une activité de grand reporter. Peu de temps après sa mise au banc du surréalisme, on l'envoie en Abyssinie. Il se prend pour Rimbaud et rêve de faire fortune dans les affaires. Il est possible que ça réussisse et que je parte là-bas pour plusieurs années comme directeur d'une grosse entreprise d'élevage ou agricole, écrit-il en janvier 1931. L'associé se retrouve en prison pour escroquerie et le reportage ne sera jamais écrit. Il part ensuite en Espagne, puis au Portugal. Le Front populaire réveille la conscience politique de Vaillant et suscite son enthousiasme. Il se réjouit de la liesse populaire. Une vraie fête de Paris par une vraie nuit de Paris, parce que c'était le vrai peuple de Paris qui s'amusait spontanément. Il assiste à la Chambre à la première prise de parole du nouveau président du Conseil, Léon Blum. En 1937, il écrit avec Raymond Manvy un roman feuilleton pour un journal de la CGT, « Un homme du peuple sous la Révolution ». Racontant l'histoire de Drouet, l'homme qui reconnut Louis XVI à Varennes. « C'était la première fois, écrira-t-il, que j'achevais un livre commencé. » Mais cela n'étanche pas sa soif violente d'écrire. Sur le plan personnel, en janvier 1935, Vaillant a fait la rencontre d'André Blavet, dit Boule. Leur amour est fort, violent, passionné, destructeur. Ils boivent, se droguent, sortent dans les bordels ou les boîtes de nuit. Ils se marient. Est-il heureux en amour ? Il l'a pensé un temps, mais rapidement il se sent pris, lié par une passion qui le domine. Il subit. Il finira par divorcer en 1947 et mettra à mort Boule dans le roman drôle de jeu et les mauvais coups. Comme l'écrit Jean Récatani, à l'incomparable printemps 1936 avec B, a succédé une période de grisaille triste qui vient seulement rompre, parfois, l'éclat d'une brusque flambée. De nouveau mal à l'aise dans la vie, Vaillant trouve réunies contre lui les trois causes habituelles du malheur de l'homme qu'il énumérera dans la fête. Le manque d'argent, la tyrannie de l'épouse, l'absence de vocation ou l'obligation de se consacrer à un travail qui ne répond pas à sa vocation. Il se sent une vocation d'écrivain, mais l'inhibition devant l'écriture est plus forte. La politique ne le satisfait pas non plus. Le revirement social traître du gouvernement de Blum le déçoit. Jean Récatani écrit encore. Il ne se sent pas davantage attiré par l'action militante. Si, au cours de l'incomparable printemps 1936, qui est aussi le printemps du Front populaire, son cœur a battu avec ces hommes nus qui le fascinent depuis l'enfance, s'il se sent fraternellement uni aux républicains espagnols, il ne tarde pas à se désintéresser du sort du monde. La débâcle de 1940 le laisse longtemps indifférent. Roger Vaillant se replie à Lyon avec son journal jusqu'à la fin de la parution en 1942. Il se retire alors à la campagne. Comment s'effectuera le revirement qui l'a entraîné à suivre une cure de désintoxication pour entrer dans la résistance? On peut penser que chez un homme de sa trempe, cela allait de soi. Voici cependant ce qu'il en dit, sous le couvert d'un personnage de roman, dans La Fête. Il était dans ce village. Il n'avait pas d'ennui d'argent. Il avait acheté toutes sortes d'ouvrages sur l'ornithologie. Il étudiait le vol des oiseaux. Les voisins parlaient des premiers maquis. Il écoutait chez eux les émissions en français de la BBC. Cela ne le concernait pas. Un jour, un certain jour précisément, tout cela l'avait concerné. Les premiers maquis, le déroulement de la guerre, la bataille de Russie. Le même jour, le vol des oiseaux avait cessé de l'intéresser. Il n'en finirait plus d'établir pourquoi, et ce serait probablement inexact. La désintoxication fut-elle douloureuse ? Il l'évoquera plus tard pudiquement dans le texte « Le soleil fou ». L'important est qu'il se soit libéré d'une dépendance qui ruinait sa souveraineté et l'avait fait devenir un comptable en pipe, un rond de cuir de l'opium, selon ses mots. Vaillant rentre dans un réseau gaulliste. Il a enfin l'occasion de mettre son courage physique et moral à l'épreuve, fait l'expérience de la camaraderie et de la fraternité, rencontre des communistes dont il apprécie les actions concrètes. Il fait une demande d'adhésion au Parti communiste clandestin, demande laissée sans réponse, tant on se méfie de cet homme aux mœurs qui ne correspondent pas à la saine morale prolétarienne. Même après sa mort, d'aucuns mirent en doute la valeur de l'action de Vaillant dans la résistance. La réponse de sa veuve, Elisabeth, sera un peu plus ferme et claire. Un jour, à Paris, quelqu'un me lança. « Tu sais, Vaillant a été un résistant à la noix, ce n'est qu'un frivole. » Gifle. Quand Roger est mort, j'en avais tellement marre des insinuations qui couraient sur lui que j'ai demandé les papiers au Molangan, son grade de lieutenant dans la résistance. La libération ne démolisa pas Vaillant. Vêtu de son uniforme, il devient correspondant de guerre. Il rencontre de l'avancée des troupes françaises en Allemagne, dirigées par Delattre de Tassigny, pour des journaux communistes comme Action, L'Humanité ou Libération. Son ami Claude Roy le décrit. Nous nous retrouvions dans le Prince Camp ou au quartier général de l'Hôtesse-Scribe, casqué, crotté, radieux. Vaillant exposait ses idées sur la stratégie, qui est une de ses passions. Il décrit la bataille d'Alsace et en tire une plaquette illustrée par la grande photographe Germaine Krull. En mai 1945, Il assiste à la chute du château de Sigmaringen, où s'étaient réfugiés Pétain et les collabos. Puis il fête la victoire avec des soldats américains dans les ruines de la villa d'Hitler à Berchtesgaden. Tous les canons de la 7e armée tiraient des salves. Le ciel était illuminé par des milliers de fusées. Un immense feu de Bengale ensanglantait les glaciers vers l'Orient. Du balcon de la chambre voisine, trois officiers américains vidaient vers le ciel les chargeurs de leurs revolvers. Dans les ruines de la maison du Führer, une mitrailleuse braquée vers les étoiles déchargeait par saccades ses bandes pétaradantes. Il était 00h00. La 7e armée américaine célébrait la victoire. En 1944, Roger Vaillant est coupé de son réseau. Caché à la campagne, il tombe sur Lucien Leven de Stendhal. Cette lecture fait l'effet d'un électrochoc. Il prend la plume et retrace son expérience de la résistance dans son premier vrai roman, Drôle de jeu, où il dresse le portrait de ses frères d'armes. Tardons-nous un instant sur ce livre qui sera couronné du prix interallié. Drôle de jeu de Roger Vaillant paraît en août 1945. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il s'affirme immédiatement comme un grand romancier, maîtrisant parfaitement son art et faisant mouche. Drôle de jeu retrace la vie du résistant Lamballe, dont le pseudonyme est Marat, chef d'un réseau gaulliste, travaillant avec les communistes, ancien surréaliste et amateur de plaisir. Vaillant a jugé nécessaire d'ouvrir le livre sur un avertissement dans lequel il explique que Drôle de jeu est un roman, au sens où l'on dit romanesque, une fiction, une création de l'imagination. Il précise en outre que Drôle de jeu n'est pas un roman historique et n'est pas un roman sur la résistance. Certes. En revanche, Lorsqu'il affirme qu'il ne s'agit ni d'un roman à clé ni d'un roman autobiographique, nous pouvons douter. Sous les traits de Marat pointent ceux de l'auteur, qui s'était fait également appeler ainsi dans la clandestinité en hommage aux révolutionnaires. De même, Caracalla, son chef, est inspiré de Daniel Cordier, le secrétaire et compagnon de Jean Moulin, qui publiera ses mémoires sous le titre alias Caracalla. Et Rodirigue est un de ses camarades de lutte, jeune militant communiste en qui il voit l'image parfaite du bolchevique, droit, intègre, sûr du sens de son combat, dévoué à sa cause. Drôle de jeu nous montre un homme qui se construit. De surréaliste drogué, il devient un clandestin qui se bat. De la révolte, il passe à l'action, de la fuite au combat. Marat choisit son camp. On pressent qu'il va devenir communiste. Tel est son destin, car adhérer au PCF sera pour Marat, tout autant que pour Vaillant, la seule manière de maintenir sa souveraineté. Il notera. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un scandale possible, c'est d'être communiste. Ça reste assez vrai. L'horreur du mode de vie bourgeois, la révolte contre son propre milieu, offre comme solution les paradis artificiels. Vaillant les énumère. Une certaine conception de la poésie, la drogue, le catholicisme, les voyages, la théosophie, le trotskisme et le suicide. Mais la guerre interdit ce genre de jeu. Il s'en explique dans un entretien publié dans les Lettres françaises. La vraie solution est ailleurs. Elle consiste à chercher les causes de ce mal du siècle. Les gens plus raisonnables les ont trouvées dans les conditions économiques et sociales. Il ne restait plus qu'à décider de les changer, en somme à s'engager politiquement. Le jeu est ailleurs, et il faut entendre ici le jeu non comme un enfantillage, mais au sens théâtral. Dans le regard froid, Vaillant donne sa vision de la représentation théâtrale. C'est peut-être de tous les temps de la vie le temps vécu le plus réellement, justement parce qu'il commence et finit et se développe selon un rythme, le temps le plus réel, parce que précisément il est en forme. Clandestinité et action déterminent ici le rythme et la forme. Marat et Mathilde et Rodrigue sont des personnages de tragédie, des héros de Corneille. Vaillant, qui écrit dans la presse progressiste depuis la Libération, s'est de plus en plus rapproché des communistes. Le bolchevique devient pour lui la figure parfaite du héros moderne. Il note dans son journal « La volonté du peuple s'identifie au Parti communiste ». En 1952, Jacques Duclos est emprisonné à la Santé, accusé d'espionnage à l'aide de pigeons voyageurs. Vaillant lui envoie sa pièce sur la guerre de Corée, le colonel Forster plaidera coupable, et lui demande d'adhérer au PCF. Duclos accepte et félicite ce, je cite, « nouveau combattant de la grande cause du communisme, de la grande cause de Marx, Engels, Lénine, Staline ». Vaillant déclare alors « dans la résistance d'abord, puis aux combattants et aux militants de la paix, j'avais eu l'occasion de travailler avec les communistes, d'apprendre à les estimer, à les aimer. Preuve m'avait été faite année par année que le Parti communiste constitue réellement l'avant-garde du combat pour la paix, pour la liberté et pour le bonheur des hommes. Je suis très heureux de commencer à militer dans le Parti, dans la ville où j'habite, en Berrieux-en-Bugey, parmi les cheminots, les cheminots paysans et les paysans cheminots, qui sauront certainement s'unir contre le nouvel occupant, les nouveaux collabos, comme ils l'ont déjà fait pendant la guerre. Vaillant se lance dans le militantisme avec joie et ferveur. Il colle des affiches, distribue des tracts, participe aux réunions de cellules, intervient dans les meetings et sert de chauffeur à Henri Bourbon pour sa campagne électorale, qui aboutira à son élection au poste de député de l'Ain. L'élu se souviendra. Après cette adhésion, il n'a cessé de militer, selon les formes qui lui étaient propres. Dans certains articles de journaux, il avait dénoncé l'exploitation des ouvriers de la vallée de l'Albarine, qu'il avait appelée, je crois, la vallée de la misère. Cela donnait naissance à Beaumasque, qui est un livre militant. Roger a milité au parti à cette période et jusqu'après 1956, non seulement en qualité d'écrivain et de journaliste, mais encore en étant mêlé de tout près à la vie des paysans et des ouvriers. Il a été mêlé à des grèves à Bourg, à la lutte contre les tentatives de saisie des paysans. Je me souviens qu'un jour, sur le champ de foire, on devait saisir un paysan qui n'avait pas pu payer le loyer de son propriétaire. Or, la saisie d'un paysan, c'est sa ruine. L'organisation de paysans, à la tête de laquelle il y avait des camarades du parti, avait mobilisé une quantité de gars, et finalement on a fait échec à la saisie. Roger était très content de cette affaire. Roger participait à ces choses-là. Il a participé à des conférences fédérales du parti, où il a pris la parole en tant que militant. Toutes ces choses montrent que Vaillant a été un militant complet. En novembre 1949, Roger Vaillant a fait la connaissance d'Elisabeth Naldi. Née à Bologne en 1916, fille d'un premier ministre italien, comédienne, Elisabeth s'est engagée dans la résistance. Elle a connu plusieurs liaisons, s'était mariée. Elle était une femme de la trempe de Roger, libre, indépendante, souveraine. Leur amour put prendre racine sur un respect mutuel qui interdisait les rapports de domination. Dans ce merveilleux livre de souvenirs qu'est Drôle de vie, elle écrira « J'étais sa compagne, son amie, sa confidente, celle à qui on dit tout, celle avec qui on peut souffrir, jouer dans un certain sens. Je crois que j'étais son port de sauvegarde. Et j'acceptais son égoïsme sur lequel, dans une certaine mesure, je fondais mon bonheur. » Insistons, ils forment un couple libre. Elisabeth accompagne Roger dans ce qu'il nomme ses balais nocturnes. Bar, boîte de nuit, bordel et beaucoup d'alcool. De ses voyages de reportage, Vaillant ne cesse de lui envoyer des lettres enflammées, tendres et sensuelles. De Bali, par exemple, il lui écrit « Salut et amour à mon Elisabeth. Ce que je peux penser à cette Elisabeth, érotiquement aussi, bien sûr. Si nous réalisons toutes les choses que j'imagine avec une terrible précision, mon imagination dans ce domaine est méticuleuse. Pour réaliser toutes ces choses, nous en avons pour un an à ne pas quitter le lit. Ce sera la plus belle des années. Mais quand elle sera finie, nous nous apercevrons que nous n'avons encore eu le temps de faire l'amour que comme des enfants. Mais je rêve beaucoup que tu me prennes comme un garçon. J'aurais voulu te ramener une belle bite. Je ne peux quand même pas transporter en avion le temple de Borobudur. Et c'est en vain que je fouille les bazars. Il y a bien des tubes à Bethel, mais ce n'est pas ce que je veux. Mais que ne trouverais-je pas dans tous les bazars de la circumnavigation que je commence cet après-midi ? » Ailleurs, il lui narre qu'il a trouvé un petit fouet qui sera très bien pour leurs jeux érotiques et lui conseille de lire Lénine. Roger et Elisabeth se marient en 1954, essentiellement pour lui obtenir des papiers français. Sachant que la vie dissolue qu'ils mènent à Paris empêche Vaillant d'écrire, il s'installe modestement dans un petit village proche de Bourg-en-Bresse, Meillonnas. Ils militent ensemble, ils sont heureux. Elisabeth terminera ses jours le 24 août 1983, après avoir fait publier les écrits intimes, accompagnée jusqu'au bout par l'affection de Marie-Noël Rio, à qui elle confiera le soin de veiller sur l'œuvre de Vaillant. En 1950 paraît « Bon pied, bon œil », roman dans lequel réapparaissent Lamballe et Rodrigue. Le militant Rodrigue sait qu'il ne peut qu'être heureux, alors qu'on découvre que Lamballe, désabusé, seul, presque hors du monde, a été castré par une balle en franchissant le Rhin. Dans une lettre à Elisabeth, Vaillant lui explique que son roman marque ses adieux à la culture bourgeoise. À ses yeux, l'écrivain qui dure est celui qui a peint, dans son essence, le monde de son temps. Il le fera dans Un jeune homme seul, 1951, Beau masque, 1954, ou 325 000 francs, 1955. Récits d'hommes et de femmes qui tentent de changer le monde, à eux tout seuls et qui donc échouent, qui sont mutilés. Des militants et des militantes, inspirés des ouvriers qu'il a rencontrés au cours de reportages dans les usines du centre de la France, qui ont donné un sens à leur vie en luttant pour l'édification de la société sans classe et l'avènement de l'homme nouveau, qui ont trouvé le bonheur dans cette action. Le roman lui permet de faire l'éloge du bolchevique qui lui paraît, par excellence, l'homme de son temps. Vaillant mit sa passion des mots au service de sa passion de la politique. Cela étant dit, il convient de préciser que mettre au service ne signifie pas un féodé. Tout comme Aragon, son rapport au réalisme socialiste est indiscipliné. Rencontre-t-on par exemple des héros positifs dans son œuvre? Certains personnages peuvent entrer dans cette catégorie, mais ils sont pleinement vivants, incarnés. Ce ne sont pas des icônes, des abstractions pures nées dans le cerveau d'un intellectuel que George Marshall aurait qualifié d'assis derrière son bureau. Vaillant n'est pas un assis, au sens rimbaldien du terme. Sa connaissance des hommes, des rapports entre les hommes, de la vie sociale et politique des hommes, naît de son observation profonde, pointue et personnelle du réel. En cela, il est réaliste. Son sens très aiguisé de l'observation, profondément nourri par son activité de journaliste, s'est affiné et affermi par l'étude de la pensée marxiste et par l'expérience du militantisme de terrain. En cela, il est socialiste. Mais n'attendons pas de son encre qu'elle soit coulée comme du plâtre dans le moule des théories de Jdanov. Son œuvre ne s'en serait très certainement pas relevée. Aragon disait qu'il n'était pas un poète communiste, mais qu'il était poète et communiste. En était-il autrement pour Vaillant? Il affirme avoir fait ses adieux à la culture bourgeoise. La découverte dialectique de la pensée communiste et de la lutte en commun, de l'action militante, l'ont naturellement amené à remettre en cause son écriture. Que sert un auteur dont la plume ne se nourrit pas de la vie? Mais le lectorat populaire compta beaucoup pour lui. Henri Bourbon le raconte. Après la parution de 325 000 francs, il y a eu des moments extraordinaires, notamment l'accueil des ouvriers mutilés du Yonax, pour lesquels ce livre avait été écrit. 325 000 francs, c'est l'histoire des doigts, des mains coupées, l'histoire de la productivité. Roger a été reçu par ses ouvriers qui, devant lui, ont disséqué son livre, l'ont justifié en quelque sorte. Roger était très secoué de voir des ouvriers s'intéresser d'aussi près à l'œuvre d'un écrivain. Quand on parle de l'alliance entre les intellectuels et la classe ouvrière, comment mieux la réaliser, dans les faits, pratiquement? Le fait que Vaillant se soit mêlé aux ouvriers et aux paysans, avec autant de naturel, n'a pas été pour peu dans l'amitié que ses ouvriers et ses paysans de l'un lui portaient. Ils se reconnaissaient en lui, et Vaillant se reconnaissait en eux. Vaillant, qu'Elisabeth avait initié à l'art, se montrera un critique féroce du réalisme socialiste en peinture. Dans un texte de 1951, intitulé « De l'amateur », repris dans le regard froid, il écrit « Je suis toujours pour le réalisme quand on l'oppose à l'académisme, comme la vie à la mort. Mais les socialistes n'ont pas encore eu le temps de broyer assez de couleurs pour s'apercevoir que ce qui est réel, ce n'est pas le modèle, c'est la peinture. Le modèle n'est réel que tant qu'il pose. Il n'en demeure sur le tableau qu'une abstraction, son image. Mais de la couleur étalée sur une toile, c'est réel. Et quand on la fait gicler joliment, bien excitant à regarder pour celui qui s'y connaît en giclure. » La rencontre avec Pierre Soulages est capitale. En 1961, Vaillant écrit dans une revue d'art « Comment travaille Pierre Soulages ?» Texte magnifique qui décrit en détail l'élaboration d'une toile. Le travail concret du peintre, avec ses hésitations et ses repentirs, est montré au plus près. Il termine par ces mots. À 20h03, il a achevé un objet fait de toile, de bois et de peinture à l'huile, est destiné à être regardé. Cet objet ne dit rien, c'est avec les mots qu'on dit. Il ne porte pas de titre. Il ne livre par bonheur aucun message, laissons les messages aux prophètes et aux facteurs. Il n'engage l'artiste que vis-à-vis de son art et de lui-même, mais absolument, et c'est important. Sa signification est celle-ci. Il a été peint par Pierre Soulages le 27 mai 1961, à une certaine période de l'histoire de la peinture, à un certain âge du peintre, à une certaine étape de la vie de ce peintre, dans l'élan d'un homme en pleine possession de son métier, et avec chance. C'est important aussi. L'année suivante, alors que des communistes se méfient de l'abstraction, Aragon lui-même, grand amateur d'art, manqua ce rendez-vous, le journal Clarté instruit le procès de Soulages. Participe-t-il à notre époque ou se réfugie-t-il dans les hautes sphères spéculatives? Peinture d'initié ou aventure poétique? Vaillant défend avec force ses convictions Soulage, attaque les mauvais peintres aux toiles représentant des manifestations et loue cette abstraction qui atteint parfois au sublime. Vaillant n'oublie pas que les mots sont aussi des abstractions qui requièrent l'imaginaire. Le travail du romancier n'est évidemment pas celui du journaliste. Il se nourrit d'inventions qui mettent en scène le réel. Vaillant dira « Je ne suis absolument pas naturaliste, j'invente tout ». Les mots aussi sont ces touches de couleur que le romancier pose sur la toile du récit. Comme s'il voulait se prouver ou prouver qu'il n'est pas dupe de son art, Vaillant ira dans la truite jusqu'à inventer des mots qui semblent tout à fait vrais pour désigner des outils de menuisier. Scie à guipée, chevilleuse à arc à émerillon de tungstène, grognard ou timbalot. Il fera ce commentaire. Je pense que peu importe l'exactitude ou la véracité d'un fait, dans un roman, ce qui compte, c'est le rythme et la précision. Staline meurt en 1953. Une partie du monde est en deuil puisqu'on voyait en lui, même à droite, le vainqueur de Stalingrad. À Paris, une minute de silence est observée à l'Assemblée nationale, que seuls 3 députés ne respecteront pas. Le couple Vaillant est aux Alimes, où ils entretiennent des rapports amicaux et simples avec les paysans du voisinage. L'un d'eux témoignera. Ils ont eu bien du chagrin quand leur chef, autrefois, c'est bien vieux tout ça, Staline, il est mort. Ils étaient bien braves. Mais un autre choc bien plus violent et douloureux allait arriver 3 ans plus tard, le rapport Khrouchtchev. Vaillant, comme beaucoup de communistes de bonne foi, croit d'abord à une manœuvre de propagande capitaliste. Mais il faut se rendre à l'évidence, Staline fut un criminel. Les pages que Vaillant consacre à cette révélation sont parmi les plus bouleversantes de ses écrits intimes. J'ai aimé jusqu'au tic de son langage. Il posait les premières pierres d'un raisonnement, puis il disait « Poursuivons ». J'ai adoré cela. Mais rentré chez moi, il a bien fallu ôter son portrait sur le mur, au-dessus de mon bureau. Le laisser, c'était prendre parti contre ceux qui, là-bas, poursuivent la construction du monde qu'il a commencé d'édifier, et pour ceux qui, ici ou ailleurs, aspire à la tyrannie. Je ne mettrai plus jamais le portrait d'un homme sur les murs de ma maison. Mais j'ai pleuré le jour de la mort de Staline. Et j'ai de nouveau pleuré sur le chemin de Moscou, à Prague. J'ai pleuré toute une nuit, quand j'ai dû le tuer une seconde fois, dans mon cœur, après avoir lu le récit de ses crimes. Dans la même nuit, j'ai pleuré sur Meyerhold, assassiné par Staline, et sur Staline, assassin de Meyerhold. Je me citais Shakespeare, Jules César, acte 3, scène 2, Brutus. J'aimais César et je le pleure. Il fut heureux dans ses entreprises et je m'en félicite. Il fut courageux et je lui rends honneur. Mais il avait décidé de se proclamer roi et je l'ai tué. Je répétais, j'aimais Staline et je le pleure. Il fut heureux dans ses entreprises et je m'en félicite. Il fut courageux et je lui rends honneur. Mais ce fut un tyran et je le tue. Vaillant ajoute, je suis comme mort. Mais si tu penses que tu en es comme mort, c'est que tu vis, ô homme. « 1956 fut aussi l'année de la tentative du coup d'État fasciste en Hongrie qui nécessitera l'intervention de l'armée soviétique. L'événement est présenté en Occident comme une insurrection démocratique et une agression impérialiste. On peut concéder que quelques Hongrois manipulés crurent effectivement un avenir plus libre. Sartre organise une pétition contre l'URSS. Il contacte Vaillant qui, sur un coup de tête, signe. Il le regrette aussitôt, mais il est trop tard. La direction du PCF le convoque, le somme de faire son autocritique. Il s'exécute et, tandis que ses anciens camarades changent de trottoir quand ils le croisent, finit au bout de quelques années par ne plus prendre la carte du parti. Vaillant est fou de douleur, il pense qu'il ne pourra plus écrire, il est tenté par le suicide. C'est la fin d'une saison dont il dira qu'elle fut la plus heureuse de sa vie. Vaillant ne cédera pas à la pulsion de mort. On le doit à l'amour profond, aux attentions, aux veilles et aussi à la patience d'Elisabeth. Elle lui redonne goût à la vie. Ils voyagent en Italie. La découverte de la loi, un jeu où les cartes servent de prétexte à dominer et humilier ses partenaires, lui inspire un roman, La loi, qui obtiendra le prix Goncourt en 1957. Don César, un vieil aristocrate, règne sur sa maisonnée et collectionne les antiques. Il s'est retiré du monde, il n'a plus de plaisir à rien, il est désintéressé, comme l'auteur. Le livre sera violemment attaqué par la presse communiste, notamment par l'Humanité. Mais Torres lui enverra une lettre pour le féliciter. Vaillant dira à Henri Bourbon, « Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Mon meilleur critique littéraire, tu le connais, non ?» Maurice Torres. Vaillant continue son activité de journalisme, rencontre de la politique, de la vie du peuple, mais aussi de l'actualité culturelle. Toujours grand reporter, il voyage en Indonésie, en Israël où il couvre le procès Eichmann, en Iran, en Égypte où il sera emprisonné comme espion communiste. Il en tirera des articles, mais aussi des récits de voyage, Borobudur ou La Réunion. Il travaille également pour le cinéma. Il signe plusieurs scénarios, dont une adaptation des Liaisons dangereuses, réalisée par Roger Vadim, avec Jeanne Moreau et Gérard Philippe. Se prend-il au jeu ? Peut-être dans sa complicité avec Vadim, mais il y voit surtout un moyen de gagner de l'argent. Il s'achète une Jaguar. Vaillant aime la vitesse. Il écrit plusieurs essais, comme une étude sur la clôt, une anthologie commentée de Suétone, ou Le regard froid, qui reprend divers essais, essentiellement sur la question du libertinage. Paraîtront encore deux romans, La fête, 1960, et La truite, 1964. Dans le premier, il exprime sa conception de la souveraineté et du libertinage, en mettant en scène l'extraordinaire liberté du couple qu'il forme avec Elisabeth. Valmont s'est fait romancier, jusque dans la rouerie. Au grand siècle, on appelait les libertins des roués. Dans le second, à travers le portrait d'une énigmatique jeune fille rencontrée dans un bowling, le monde de la haute bourgeoisie et de la finance est passé au scalpel. Son dernier texte paru est un éloge de la politique, publié le 26 novembre 1964 dans le Nouvel Observateur. Qu'est-ce que vous faites, les philosophes, les professeurs, les écrivains, moi-même, les intellectuels, comme on dit? Les praticiens ne manquent pas, ce monde en est plein, mais les penseurs politiques. En attendant que revienne le temps de l'action, des actions politiques, une bonne, belle, grande utopie, comme nous pensions en 1945 que l'homme nouveau serait créé dans les 10 années qui allaient suivre, ce ne serait peut-être déjà pas si mal. La politique continue de passionner Vaillant. Contrairement à pas mal d'ex-camarades qui retournèrent leurs vestes ou se vautrèrent dans l'anticommunisme, Vaillant reste digne, ne renie rien et, en son fort intérieur, continue d'espérer. Il n'a pas baissé les bras. Écoutons le témoignage d'Elisabeth. Je me souviens du dernier rêve que tu me racontas, Roger. C'était les tout derniers jours de ta vie. Tu te réveillas en sursaut et tu me dis « Elisabeth, pourquoi ne descends-tu pas ? Moi, je ne peux pas, mais toi, tu dois y aller. Ils sont tous en bas. » Tu croyais qu'il y avait une grande fête en bas. Et tu m'as énuméré les noms des gens qui participaient à cette fête. Et ce n'étaient que des communistes, des vivants et des morts. Tu es mort en pensant à un grand roman politique. Tu avais si peur que j'égare des notes que tu n'avais jamais écrites. Les notes sur ce roman que tu n'as pas eu le temps d'écrire. Quel dommage, Roger, que tu n'aies pas eu le temps de l'écrire, ce roman. Il ne pourrait plus dire que tu étais désengagé. Roger Vaillant meurt le 12 mai 1965, son cercueil couvert du drapeau de la libre pensée. Vaillant aurait-il évoqué la question du bonheur dans ce grand roman politique dont il rêvait ? Sans doute. Le bonheur fut une des préoccupations principales de Vaillant, le centre de toutes ses attentions, qu'il s'agisse du bonheur de l'homme en accord avec son temps et des luttes de son temps, ou du bonheur de l'homme qui s'est désengagé pour se consacrer au plaisir. L'écriture fait partie de cette recherche du bonheur, de sa réalisation. Duc, personnage principal de la fête et dont Vaillant a trouvé le modèle dans un miroir, affirme « Quand un écrivain est dans le malheur, il cherche d'abord les mots pour décrire le malheur. Et par là, il y échappe. Écrivain, inapte au malheur. » Il note encore dans son journal intime en 1964 « Écrire, c'est ouvrir la porte au bonheur, il vient ou pas. » Vaillant trouve le bonheur, mais aussi dans l'amour, celui d'Élisabeth avant tout, mais comme l'amour est aussi, écrit-il, un plaisir, dans les échanges goûtés avec des filles de passage ou des prostituées. On trouve également dans les écrits intimes une définition de la douceur de vivre qui participe de ce bonheur. La douceur de vivre, c'est le contraire de l'économie. C'est d'abord se chauffer plus qu'il n'est nécessaire pour ne pas être malade de froid, coucher sur un lit plus moelleux qu'il n'est absolument nécessaire pour pouvoir dormir, varier les pas plus qu'il n'est indispensable pour une saine diversité de la nourriture et les assaisonner davantage qu'il ne suffit pour exciter l'appétit. En 1957, il définit ainsi son rêve de bonheur, l'état de grâce sans Dieu, sans présupposition métaphysique. Mais le bonheur ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'une construction de soi, mais aussi du rapport de soi au monde. Vaillant termine un roman de sa saison militante par le mot « heureux », un jeune homme seul. Le personnage principal, qui partage beaucoup de traits avec l'auteur lui-même, se nomme Eugène Marie Favart. On le découvre adolescent à Reims, dans une famille de la moyenne bourgeoisie, dont la morale est triquée, les failles, les faiblesses sont décortiquées. Eugène Marie est un jeune homme gauche, timide, mal à l'aise dans sa peau, obsédé par les femmes. Il est dans une révolte sourde contre sa famille. La vulgarité, les rires gras d'un mariage lui soulèvent le cœur. « Les voilà les Gaulois, » murmurait Eugène Marie. « La voilà donc la bonne vieille gaieté gauloise. Canaille, crapule, je vous crache à la gueule. J'ai honte d'être français. Malheur à moi que les Allemands n'aient pas gagné la guerre. Vite, une escouade de Prussiens pour faire faire toutes ces racailles à coups de crosse dans les reins. » Eugène Marie convoque les nègres de Rimbaud. « Les Prussiens sont battus, se disait-il. Nous leur avons pris l'Alsace et la Lorraine. » Mais il reste les nègres, les vrais nègres. Même ceux d'aujourd'hui ont gardé quelque chose de la verdeur primitive. J'irai en Afrique comme Rimbaud. Je fonderai un royaume comme lui et je reviendrai à la tête de mes nègres mettre le feu à Paris et étouffer les cocus de ces bâtards dans le sang de leur gorge ouverte. Vaillant se décrit dans les colères brûlantes et les déceptions de Eugène Marie. Le jeune homme qu'il avait été signa dans le Grand Jeu un article intitulé « Colonisation » qui se termine par ces lignes. Nous fraternisons avec vous, chers nègres, et vous souhaitons une prochaine arrivée à Paris et de pouvoir vous y livrer en grand à ce jeu des supplices où vous êtes si fort. Pénétrés de la forte joie d'être traître, nous vous ouvrirons toutes les portes. Et tant pis si vous ne nous reconnaissez pas. » Eugène Marie flirte avec une jeune fille, Marcel, ne sait pas danser avec elle, casse la gueule d'un type dont il juge qu'il lui a manqué de respect. Eugène Marie veut se prouver qu'il est fort. Il tente des caresses plus pressantes sur Marcel, elle se dérobe, elle le gifle, comme sa grand-mère avait giflé son père lorsqu'il fut recalé à Polytechnique. Il se sent seul. Lors de ce mariage, il rencontre des communistes. Il voulait assister à un meeting, mais son costume, ce costume qu'il avait tant désiré pour abandonner ses culottes courtes de gamin, le fait ressembler à une tante. On le rejette. Eugène Marie n'est pas fort, Eugène Marie est seul. Dans la seconde partie, qui se déroule sous l'occupation, Eugène Marie Favart est ingénieur dans une gare de triage. Il s'est marié avec Domenica, fille d'un républicain espagnol assassiné par les fascistes. Il se saoule régulièrement pour oublier qu'il est seul, qu'il n'a rien fait de sa vie, qu'il n'a pas donné suite à ses rêves. Un ouvrier nommé Madru, qui a été membre du Parti communiste avant la guerre, est retrouvé mort accidentellement dans la gare. Un flic est envoyé pour enquêter sur cette mort suspecte dans une région où les sabotages se multiplient. Le réseau est démantelé. Gelmarie reste de marbre, mais participe ouvertement aux obsèques de Madru, dont le fils aussi a été arrêté. Dominica aussi est arrêtée, mais elle parvient à s'en sortir. Gelmarie assiste à l'interrogatoire du fils de Madru. Un flic le gifle. Gelmarie voit rouge et assomme l'agent de Vichy, libère le résistant de ses menottes et tente de s'enfuir avec lui. Dans l'action, Gelmarie découvre le bonheur. Il ne s'était senti jamais aussi léger. Le bonheur de vivre chantait pour la première fois dans son cœur. La vieille Eugénie Favart, qui dirige un réseau, autant par conviction que par fidélité à son défunt mari Communard, retrouve Domenica. Ils vont faire évader Eugène-Marie. Et elle ajouta, « Il a retrouvé les siens. Plus rien ne fera obstacle à votre bonheur. » Il ne s'agit plus de rêver bêtement sur des nègres fantasmés. Il faut se battre. Il ne s'agit plus de se révolter. Il faut penser en termes d'action concrète et efficace. Eugène-Marie Favart est devenu enfin maître de lui-même, de son destin. Il est souverain. Comme Vaillant. Et Vaillant, comme Eugène-Marie, a compris qu'il n'est pas de bonheur possible dans les temps de détresse. Le bonheur est aussi une notion politique. Le but du communisme est le bonheur de chacun dans le bonheur de tous. En 1948, Roger Vaillant et Claude Roy répondent vertement et longuement à un plumitif qui avait écrit dans Action que « la poursuite du bonheur à titre individuel s'est trouvée singulièrement dépassée depuis 100 ans ». Vaillant et Roy titrent leur lettre « La recherche du bonheur est le moteur des révolutions ». Ils écrivent « La révolution de 1789 et toutes celles qui ont suivi ont été faites au nom du bonheur. Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. La politique est une technique du bonheur des hommes en société. Le marxisme est la science du bonheur possible dans l'histoire. » La lutte est une condition du bonheur. Vaillant et Roy donnent un exemple. Les Juifs sous l'occupation étaient persécutés, menacés de mort, à chaque instant, humiliés, malheureux. Nous en avons connu de deux sortes. Ou bien ils se cachaient, se savaient traqués et s'acceptaient comme tels. Ils restaient malheureux. Ou bien ils entraient dans la lutte clandestine, combattaient, rendaient coup pour coup, tuaient à l'occasion. La lutte les grandissait d'abord à la taille de leurs adversaires pour ensuite les leur faire dominer. Ils conquéraient le droit à l'espoir, le seul véritable espoir, celui d'un homme en train de se battre pour le réaliser. Ils étaient déjà heureux. Sauvés, aurait dit Rimbaud. Tout combattant de la résistance était déjà heureux. Et ce n'est pas fini, car le combat n'est pas fini. Sous le régime capitaliste, tout travailleur est un juif. Vaillant et Roy conclut en affirmant que la lutte communiste est, comme la recherche du bonheur, une tâche difficile et héroïque. Je vous remercie.